Session sur la béatitude par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 21 avril 1996, première conférence.
Oh, les questions, je vais y répondre rapidement. Quand nous ressusciterons, verrons nos yeux glorifiés du mystère de la très sainte Trinité. Nos yeux glorifiés ne peuvent pas voir la très sainte Trinité. Nous verrons avec les yeux de notre âme dans la vision éthique. Mais nos yeux glorifiés, c'est pour voir dans la charité fraternelle nos frères, l'humanité sainte du Christ, l'humanité glorieuse de Marie. Dieu glorieux, les glorifiés. Mais le mystère de la très sainte Trinité ne peut être vu que dans la vision béatifique, le Lumen glorié, qui lui n'est pas sensible. Oui, Dieu voit le sensible, mais le sensible ne voit pas Dieu. Regardant la gloire du corps du Christ, seront entièrement satisfaits. Et vos yeux glorifiés, regardant la gloire de Marie, seront entièrement satisfaits. Et la charité nous sont données gratuitement, mais nous sommes responsables de la croissance de la foi, de l'espérance, de la charité. On n'a pas le droit de perdre de temps. Et la grande tactique du démon pour les êtres spirituels que vous êtes, il faut bien la fin de la session dire ça pour que vous gardiez un bon souvenir. Non, les êtres spirituels que vous êtes, l'attaque du démon premièrement, vous faire perdre du temps. Et le but premier des sessions philosophiques et théologiques, c'est pour que vous ne perdiez pas de temps. Oui, mettre en réactive, en quelque sorte, pour aller avec un dynamisme plus grand. De la connaissance et de l'amour dans la vision béatifique, non. grâce. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus beau? Ça veut dire comprendre de plus en plus Dieu. Oui, c'est vrai. Mais la charité grandit à cause de la foi. À cause du désir. C'est par le désir que la charité grandit. Quand il n'y a plus de désir. Nous serons tous parfaitement... C'est ça la béatitude. On l'a dit. Quand il n'y a plus de désir. Il y a une béatitude parfaite. Alors Catherine de Sienne, elle parle de ça, Catherine de Sienne. Elle dit, bon, chacun recevra la plénitude qui nous satisfait pleinement. On ne louchera pas pour voir si le voisin a une plénitude plus grande que nous. Ça, c'est sur la terre. Au ciel, on ne louchera plus. Pour savoir est-ce que mon voisin, que je connais bien, que j'ai bien vu, qui a perdu tellement de temps sur la terre, est-ce qu'il a la même béatitude que moi? Non, non. On sera tellement heureux d'être entièrement donné à Dieu. Et Dieu nous sera entièrement donné.
Humaine joue pour l'exercice de ma foi. Je veux croire, je veux espérer, je veux aimer. Mais le contenu de la foi, le contenu de l'espérance, le contenu de la charité échappe à la psychologie. C'est le mystère. Alors, je peux toujours vouloir faire des actes de foi, vouloir faire des actes d'espérance, vouloir faire des actes et des actes d'adoration. Vous voyez, et c'est très méritoire de faire ça. Quand tout est terriblement aride, quand tout est terriblement difficile, quand la lutte est forte et que le démon nous attaque par des bouffées d'imagination. C'est comme ça qu'il attaque, il prince de l'imaginaire, le démon. Donc il nous attaque par l'imaginaire. Et l'imaginaire peut très bien empêcher de faire des actes, empêcher ma volonté d'aller jusqu'au bout. Mais il y a toujours la possibilité de dire « je veux croire ». On n'aura pas plus que ça, mais c'est déjà quelque chose. Je veux espérer, je veux faire des actes d'adoration. Tandis que vous ne pouvez pas, comme vous voulez, entrer dans la contemplation et l'oraison. Parce que la contemplation et l'oraison impliquent justement un certain repos en Dieu. L'oraison, la contemplation, présuppose un exercice divin de la foi, de l'espérance et de la charité. Et cet exercice divin de la foi, de l'espérance et de la charité viennent des dons du Saint-Esprit. Le don d'intelligence permet à mon acte de foi d'être contemplatif par l'amour. Les dons du Saint-Esprit proviennent toujours de l'amour. Et alors là, je peux dire qu'il y a un exercice divin de la foi. Mais je peux aussi avoir un exercice humain de la foi. Je veux faire des actes de foi. Je veux croire. Exercice humain de la foi. La foi dans son contenu est divine, mais l'exercice de la foi peut être humain. Oui. Évidemment, cela présuppose qu'on a fait la distinction entre ce qui spécifie, ce qui détermine une opération vitale et l'exercice. Distinction qui vient très difficile à faire dans une philosophie fémologique. Puisque dans la fémologie, la détermination provient d'exercice. Il y a un lien entre les deux, on ne peut pas les distinguer. On les distingue, mais l'origine est fausse, elle va pas. Il y a un ordre qui n'est pas juste. Alors c'est ça que je voulais dire, oui, c'est que la contemplation... Quand je suis dans une aridité totale, ce qui peut arriver, le bon Dieu peut me le demander. Quand je suis dans une aridité totale, c'est difficile hein, de faire un quart d'heure d'oraison. Surtout quand on a froid aux pieds. C'est difficile de faire un quart d'heure d'oraison. Je connais un peu endormi. De lutter contre le sommeil, difficile. Tandis que je peux m'éveiller en disant, je veux faire un acte de foi, je veux faire un acte d'adoration. Oui, la volonté est bonne, elle me réveille. Je répète ça, il ne faut pas hésiter du reste. Il faut chaque fois reprendre un désir d'aller plus loin. Alors, je vois maintenant la béatitude imparfaite dans l'amour d'amitié. Comme c'est important, ça. Vous voyez, c'est la béatitude imparfaite que des chrétiens mariés qui vivent d'un amour d'amitié humain et transformé par la grâce peuvent vivre. C'est une certaine béatitude. Un foyer chrétien peut vivre par moments une certaine béatitude.
surtout au début. Le Seigneur donne des grâces comme ça, assez étonnantes. On a tous vu ça. C'est beau, tu vois, moi ça me ravit toujours de voir des jeunes mariés qui s'aiment vraiment. Et leurs petits-enfants, quand ils sont encore tout petits, ça ne gêne pas l'unité, c'est merveilleux. Laissez venir à moi les petits-enfants, ça va très loin. C'est-à-dire, les petits-enfants ne gênent pas la contemplation, ne gênent pas l'amitié, ne gênent pas la béatitude. Même quand ils crient, grand-mue, c'est pas d'importance. Vous verriez des grandes personnes circuler dans l'église comme des gosses qui circulent, ça serait terriblement gênant. J'en aurais envie de dire, écoutez, c'est des gosses, mais non. Ils jouent dans le ciel. Alors, il faut bien comprendre ici, il y a deux choses à bien comprendre pour saisir cette béatitude imparfaite, mais qui est une vraie béatitude. Et le chrétien doit en porter le témoignage. Ça, c'est tellement important aujourd'hui, dans les foyers chrétiens, de montrer la différence, hein, de ce qu'un foyer chrétien, où il y a la grâce du mariage. Et la grâce du mariage apporte une qualité divine qui transforme l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse. Et qui vont, ils sont heureux. On dira, ils sont heureux, mais pas uniquement heureux humainement, ils le sont. Mais il y a quelque chose de bien plus. Il y a une béatitude. Alors, comprenons que la charité chrétienne, et ça, dans la vie du mariage, dans la vie religieuse, il y a autre chose. Il y a aussi une certaine béatitude de vivre avec ses frères. Ecce quam bonum et suae, comme il est bon et suave de vivre avec des frères. C'est vrai. Il y a des jours durs, mais il y a des jours merveilleux. L'office de la nuit de Pâques, quand on chante l'exultet et qu'on vit un peu de la liturgie, et plus que de la liturgie, de la charité fraternelle, et qu'on se retrouve après de l'office dans la joie, il y a quelque chose de la béatitude. C'est imparfait, c'est évident. On est ordonné vers quelque chose. Alors, comprenons bien, parce que ça c'est très important. La charité fraternelle vient directement de la grâce, et donc c'est une vertu théologale. J'aime mon frère divinement. J'aime mon frère dans le regard du Christ, comme le Christ l'aime. Et j'aime tous de cette manière-là. Cette charité fraternelle a deux manières ou trois manières de s'exercer. J'en dis cinq, trois. Et on précisera où il y a béatitude et où il y a ascèse. Parce que la vie commune a un côté ascétique, même dans le mariage. C'est sûr. Parce que la sensibilité s'use. Et alors quand les pneus s'usent, on dérape. C'est évident. Alors il faut comprendre ça. Alors, comprenez. La charité fraternelle a un exercice volontaire. Je veux aimer mes frères. Dans le mariage, il y a un choix. Donc ça n'existe pas, ça. On ne va pas vous dire, oh non, ce serait terrible, ça. J'ai connu comme ça. Moi, j'ai refusé de marier. Un garçon que je connaissais, qui était très pieux, un peu trop. Vous voyez ? C'est-à-dire, il n'avait pas assez de vertu théologale. Il m'a dit, j'aime beaucoup une jeune fille, je veux me marier avec elle pour la convertir. C'est vraiment pour la convertir. Oui, c'est pour la convertir. Alors je bénirai pas votre mariage. J'étais complètement suffoqué. Je croyais que au contraire, j'allais bénir le mariage deux fois. Non, j'ai dit non, je veux pas. Il a été demandé au curé qui l'a baptisé. L'année suivante, ils sont revenus tous les deux. Vous aviez raison. Ils avaient été mariés. Et c'était pas suffisant pour trouver l'annulation. Mais c'est vrai qu'on marie ceux qui s'aiment d'un amour d'amitié. Et qui s'aiment mutuellement d'un amour d'amitié. Aimer quelqu'un pour le convertir, c'est la charité fraternelle. J'aime tout le monde. Tous les voleurs du coin, je les aime d'un amour de charité. Je les aime même si s'abîment mon auto. Je les aime d'un amour de charité. J'aime la personne et j'ai de la haine pour ceux qui font de mal. Mais cet amour de charité, cette volonté d'aimer, de charité tous les hommes, sans rien exclure, c'est rude. Pas commode, ça ne vous donne pas la béatitude. Non. Je le fais parce que Dieu me demande de le faire. La charité fraternelle peut avoir un mode divin. Exactement comme la vertu de religion et l'exercice de l'adoration. Par le don de piété. Sainte Catherine de Sienne qui rencontre l'hébreu et qui le baise et qui boit son le but de ses plaies. Et elle en est au ciel. Saint François qui est au ciel quand frappant à la porte d'un couvent. J'ai essayé de le faire. Pas ici, moi aussi. Avant que j'étais beaucoup plus jeune, que j'ai fait une fois. On arrive le soir, minuit, pas de logement, rien. On va frapper, pas d'un courant. Ah non, on n'ouvre pas, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas. Là, on est obligé de partir. Et Saint François dit qu'à ce moment-là, c'est la béatitude. Oui, donc piété. C'est merveilleux. On aime ses frères qui ne vous reçoivent pas. C'est ce qui sont merveilleux. Ils me permettent de faire un acte héroïque de charité. C'est quand même merveilleux. Je trouve un mur, ça permet ça. Un acte héroïque de charité. Et c'est vrai, c'est très reposant. Parce qu'on n'a pas de lit, donc c'est très reposant, divinement. Et pour le pauvre corps humain, quand il est fatigué, c'est tant pis. Dans le temps, il y avait la gare, on peut toujours y aller, maintenant ça se ferme, parce qu'on a peur des brigands. Il y avait toujours un endroit où on pouvait trouver un lieu. Bon, le don de piété permet à l'acte de charité fraternelle d'être divin. Et d'être, de nous donner vraiment quelque chose de merveilleux. Que le frère m'accepte, que le frère ne m'accepte pas, c'est Dieu qui répond. Quand il y a un don de piété, c'est le Christ qui répond. Être en face du Christ, c'est une béatitude. À travers le frère qui répond, à travers le frère qui ne répond pas. Troisième, donc 1, 2, 3.
crois, c'est lorsque il y a un amour humain, d'amitié. Prenez l'époux et l'épouse. Prenez des amis. Il y a un amour d'amitié. Cet amour d'amitié est humain. La charité surnaturelle peut le transformer. Et avoir alors à ce moment-là un exercice qui reste un exercice quelquefois volontaire. Non, il y a beaucoup plus tout de suite. Puisque j'aime l'ami. Et regarder l'ami dans un regard chrétien, c'est tout de suite faire que cet acte d'amitié me donne une joie profonde. C'est pas seulement la joie humaine de l'amour d'amitié, c'est une joie qui m'unit à Jésus et qui me permet d'aimer à travers mon frère, à travers mon ami, de rejoindre Jésus. Il y a une certaine béatitude. Oui. La vie commune est le fruit de l'amour d'amitié. Donc, il y a une vie commune qui est le fruit d'un amour de charité que je m'efforce de faire. Dans la vie religieuse, je n'ai pas choisi ceux qui sont là. Je n'entre pas à cause d'eux. J'entre pour le Christ. Et je rencontre, au bout d'un certain temps, des frères ou des sœurs que j'aime beaucoup, ou au contraire, que j'aime moins, qui sont difficiles à aimer. C'est le choix de Dieu est curieux. Dieu a choisi un tel là, il l'a foué là. Quelle drôle d'idée de la part de Dieu. Vous savez l'histoire merveilleuse que le père Emmanuel a racontée, et ça lui était arrivé vraiment, je crois que c'était vrai chez lui. Il a raconté cette petite histoire. Parce que quand il était à Montmorin, de temps en temps, il n'avait pas assez d'ermites. Alors il demandait au Seigneur, envoyez-moi des ermites. Un jour, il rêve. Il voit le Jésus qui vient vers lui et qui lui dit, il te manque de vocation, voilà, je t'amène tous ces garçons choisis. Alors, il regarde bien. Il fallait voir le regard du père Emmanuel, il regarde attentivement. Puis, il dit, oh, c'est merci, Seigneur. Alors, je dis quand même une certaine quantité. Hein. Puis après, il présente des jeunes filles choisies. Et puis, ayant terminé de choisir, Jésus lui dit simplement, « Moi, je prends le reste. » Là, il a compris ce que ça voulait dire. Il n'y a pas que le choix humain, il y a un choix divin. Et c'est ce qui se passe dans la vie religieuse, il y a un choix divin. À la différence, vous voyez, des communautés de base. Je me souviens, quand les communautés de base ont commencé, j'ai rencontré un de mes frères dominicains. Il dit, oh, c'est merveilleux ces communautés de base, c'est merveilleux. Je dis, tiens, tiens, comment ça se passe? Alors il me raconte, et je dis, et ceux qui ne sont pas choisis? Alors, il y a les communautés des non-choisis. Oui. Et c'est Jésus qui les prend. Alors vous voyez, la vie commune n'est pas uniquement l'exercice de la charité fraternelle, n'est pas uniquement l'exercice de l'amour d'amitié. Parce que, au-delà de l'amour d'amitié, au-delà de l'exercice de la charité fraternelle, il y a en chacun d'entre nous les conséquences du péché originel.
c'est bien évident, les conséquences du péché originel, qui ne se sont pas manifestées quand on a rencontré quelqu'un qu'on avait 20 ans, on n'a pas vu ça. Les conséquences du péché originel augmentent l'importance de la psychologie. Pourquoi si facilement la psychologie se sépare de la philosophie? C'est à cause des conséquences du péché originel, qui augmente énormément notre imaginaire. Et quand l'imaginaire est très grand, alors à ce moment-là, la psychologie joue un rôle très important. Alors, il peut très bien se faire qu'on s'est choisi comme ami. Dans le mariage, ça existe. Il faut bien se le dire. On s'est choisi quand on avait 20 ans, 25 ans, 30 ans. Quand on a 60 ans, c'est plus tout à fait la même chose. Et dans la vie religieuse, c'est la même chose. Alors, vous voyez, il y a ce problème qui fait que dans la vie commune, au-delà alors le Christ nous aime tel que nous sommes, même avec les conséquences du péché originel. Mais le Christ les voit, nous ne les voyons pas, c'est toute la différence. Et quand on les voit, on devrait dire, mais le Christ les a vus avant moi. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Le Christ les a vus avant. Si le Christ les a vus avant, très bien. Le Christ a permis que je choisisse cette personne. Je m'aperçois qu'il y a des... Il y a un irascible qui se développe d'une façon effrayante. Il y a une susceptibilité qui touche presque la maladie. Qu'est-ce que je vais faire ? La grâce du mariage est là pour être victorieuse. Parce que Dieu ne nous trompe pas. Dans la vie religieuse, c'est la même chose. La grâce du Christ est là pour nous donner la force. Dans la vie humaine, vous voyez, quand on travaille à côté de certains, on arrive à être des amis, mais on s'aperçoit au bout d'un certain temps, c'est pas du tout un ami. Il est là uniquement pour m'exploiter. Alors là, c'est autre chose, vous voyez, parce que je ne suis pas lié à lui. Si je vois qu'il m'exploite d'une façon tellement forte que je ne peux plus vivre, prudemment, je dois faire grande attention. S'il va à droite, je vais à gauche. Et ça, c'est un exercice prudent de charité fraternelle. L'Écriture nous en donne l'exemple. Vous savez bien, cette histoire des bergers avec Abraham. Si tu vas à droite, il dit ça à son neveu, si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est pas à cause d'eux directement, c'est à cause des bergers, mais ça revient au même, point de vue de la vie commune. Vous voyez, donc il y a toute la question de la prudence qui intervient. Je peux très bien distinguer ces trois cas, ça c'est très net. Et je vois qu'il y en a deux qui font que l'exercice de la charité me donne vraiment, vraiment, une béatitude imparfaite, mais une béatitude. Il n'y en a qu'un, un exercice purement volontaire, qui lui est plutôt ascétique. Je fais mon devoir. Réduire la vie chrétienne à faire son devoir, c'est pas fameux. La vie chrétienne demande qu'il y ait ces béatitudes imparfaites qui se développent. Au niveau de la charité fraternelle, au niveau de l'oraison. Parce que c'est vrai, il y a une certaine manière de concevoir la vie chrétienne qui est de la concevoir d'une manière janséniste. Le janséniste, c'est du stoïcisme. Ça, c'est sûr. Oui. Le chrétien, c'est celui qui est l'homme du devoir.
rien de plus. Jamais la moindre jouissance. La moindre jouissance, c'est trop dangereux. Oui, si vous commencez à aimer la confiture, c'est dangereux. Parce que vous devrez lutter contre ça. Donc il vaut beaucoup mieux prévenir et ne jamais en prendre. C'est tellement plus simple. Et alors, après, multiplier la confiture avec tout ce qui peut être les biens normaux humains. Oui, alors, la perfection chrétienne n'est pas la perfection d'un stoïcien, n'est pas la perfection d'un janséniste. Tu vois, on sait très bien que quand on tend vers des positions comme celle-là, il y a toujours les vengeances de la nature. Tout le temps. Vous voyez, les jansénistes, c'était affolant. Mais, on touchait des choses extrêmes qui faisaient que c'était plus ce que Dieu voulait, nettement. La vie chrétienne demande qu'on comprenne que nous sommes faits pour la béatitude de la vision de Dieu. Et que dès cette terre, dans notre marche vers la vision béatifique, nous devons comprendre que l'homme chrétien réclame que les vertus théologales surabondent sur la vertu morale de religion, sur l'amitié humaine, sur le travail, pour me permettre de connaître une certaine béatitude imparfaite. Mais une certaine béatitude, j'en ai besoin. Oui, j'ai besoin, j'allais presque dire, de respirer déjà dès maintenant quelque chose du ciel. J'en ai besoin. Je ne peux pas être uniquement quelqu'un qui est un homme de devoir. Ce n'est pas chrétien. Les païens font de même, Jésus dirait. Le chrétien fait plus. Vous voyez, parce que si vous ne faites que le devoir, vous ne serez jamais très agréable pour votre prochain. Il faut quand même pour le prochain avoir vraiment la physionomie de quelqu'un qui est heureux, qui est joyeux, qui aide, qui sourit. S'il est uniquement le stoïcien, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas sentir autrement. C'est trop dur, alors c'est très difficile, c'est très rude. On accepte momentanément de passer par un tunnel, mais on ne peut pas vivre toujours dans un tunnel. On a besoin de respirer l'air pur, l'oxygène. Et respirer l'oxygène, c'est savoir qu'on est fait pour être des êtres qui vivent dans la béatitude, parfaite et imparfaite. Alors vous voyez que le problème de la vie commune fait intervenir quelque chose de différent, que l'exercice de la charité fraternelle fait intervenir la prudence. Dans la vie commune, la prudence joue un rôle très important. Il faut être lucide vis-à-vis de ceux qui sont à côté de nous. Pour savoir si, au fond, comment on doit vivre avec eux. Parce que si vous paraissez toujours très heureux d'être à côté de quelqu'un, que vous énervez à un point présent, et vous faites ça par vertu. Par vertu, je vais exprès voir celui-là avec qui je m'entends pas du tout. Mais pensez à lui aussi. Ça m'a pas heureux du tout. Et on fait ça vertueusement. Puis ça, c'est contraire à la prudence. C'est contraire à cette... La prudence est une vertu très grande, c'est une sagesse pratique qui maintient l'amour d'amitié. S'il n'y a pas cette prudence, il n'y aura pas d'amour d'amitié. Et donc, il n'y aura pas cette béatitude imparfaite.
sans doute le renouveau de la vie chrétienne aujourd'hui, auquel Saint-Père insiste tellement. Qui doit nous faire comprendre cela? Ce renouveau de la vie chrétienne, c'est de faire des chrétiens qui soient heureux, qui luttent, mais qui soient heureux de se retrouver entre eux. Vous voyez, les premiers chrétiens étaient heureux de se retrouver entre eux. Parce qu'on peut parler chrétien. Mais aujourd'hui, ça n'arrive pas toujours. On est quelquefois avec des chrétiens. On est tout de suite taxé. Hein. Ah, vous êtes un progressiste. Ah, vous êtes... On ne s'entendra pas. Oui, le chrétien, ce qui fait de nous la note commune, c'est que nous tendons vers la vision béatifique. Et c'est ça qui fait qu'il y a entre nous quelque chose de si grand. On a la même finalité. C'est quand même quelque chose d'infiniment plus grand que les petites modalités d'être progressiste. Ou... Parce que ça ne touche pas Dieu d'être progressiste. Vous savez. Dieu est bien plus progressiste que vous. Parce qu'il est éternel. Donc toute éternité est présente. C'est les petits côtés. Si on vivait plus de cette finalité de la vision béatifique, on serait bien plus accueillant. Il n'y aurait pas d'a priori. On verrait tout de suite le chrétien. Et je crois que c'est ça le renouveau de la vie chrétienne. Le renouveau de la vie chrétienne consiste à ça, c'est qu'on est du Christ. Et parce qu'on est du Christ, il y a quelque chose en nous qui s'épanouit pleinement. Alors, puisqu'il reste encore quelques minutes, dernier plan, le refuge. C'est quand même important. Le refuge, qui est le travail. Le travail est l'activité humaine qui prend le plus de place dans notre vie. Je crois que Saint-Pierre doit avoir un ordinateur merveilleux pour pouvoir compter les heures de travail de chaque chrétien. Comptez un peu les heures de travail depuis que vous existez. C'est extraordinaire. C'est la grande expérience humaine, mais fondamentale. Et c'est très important de maintenir en nous un amour du travail. Ça n'aboutit jamais à une béatitude. Non, jamais. Mais c'est le fondement. Et quand le fondement commence à s'ébranler, c'est très dangereux, parce que tout s'ébranle. Et je crois que l'idéologie athée du marxisme enlève l'amour du travail. C'est ce qu'on constate dans les pays qui ont vécu pendant 50 ans le marxisme. Parce qu'on a enlevé la confiance, on vit dans le mensonge. Le travail implique une coopération. C'est sûr, on travaille à plusieurs. Le travail maintien implique une coopération. On peut travailler seul, c'est sûr, mais c'est très peu le travail. On a commencé à travailler dans les communautés de travailleurs, les premières communautés, et ça continue. Alors le travail, c'est le refuge. C'est-à-dire, c'est la base fondamentalement humaine qui doit être saine. Qui doit être saine. Il faut maintenir en nous un amour du travail. Alors, on ne peut pas maintenir un amour de n'importe quel travail, ça c'est sûr. Chacun d'entre nous, nous avons des aspects où on est plus apte à ça. Ça, c'est évident. Il y a des gens qui ont absolument besoin de travail manuel pour travailler, pour aimer le travail. Il y a des gens qui aiment de labourer leur petit champ pour aimer le travail. Il y a des gens, au contraire, qui aiment un travail intellectuel. Et on doit découvrir dans sa vie. C'est très important, ça. On doit découvrir dans sa vie là où il y a un travail qui nous détend. Et qui est capable de nous détendre. Il nous détend parce qu'on l'aime. Un travail que vous n'aimez pas et que vous êtes obligé de faire pour gagner votre vie, ben ça ne vous détend pas du tout. Et vous voyez, c'est parce que le marxisme n'a pas une notion du travail humaine, mais une notion dialectique du travail. Et donc une notion de la praxis qui est dialectique, qui est donc dans la lutte. Alors le travail ne repose plus. Le travail ne donne plus, n'a plus sa dimension humaine et ne permet pas de détendre. Tandis qu'au contraire, si vous regardez que le travail est en vue d'une œuvre, réaliser une œuvre utile, une œuvre agréable, belle, une œuvre qui est peut-être un peu de la gratuité. Alors à ce moment-là, si le travail est finalisé par une œuvre, et que j'aime ce travail, il y aura la détente de l'œuvre accomplie. Et je me permettrai de repartir avec plus de courage. Oui, si au contraire vous avez une vision du travail qui est une vision dialectique, comme dans le marxisme, il n'y a plus de détente. Il y a la rivalité. Le travailleur, qui est l'ouvrier, s'opposera au patron, qui lui aussi travaille, c'est bien évident, et qui travaille quelquefois bien plus que les autres. Mais on ne verra que sa manière de travailler, et on ne regardera plus le travail. Et l'ouvrier ne verra plus que cela. C'est qu'il travaille de telle manière, parce qu'il a évidemment peut-être plus de liberté dans son travail. Il est plus libre, mais il travaille. Au contraire, on voit la coopération et non plus les modalités diverses du travail. Si on comprend qu'il y a une œuvre commune qu'on fait ensemble, alors cette œuvre commune qu'on fait ensemble permet la détente. Mais c'est extrêmement curieux le travail. C'est une chose très importante. Voyez, et quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que la philosophie occidentale a commencé avec Hésiode, le travail et les jours. La philosophie a commencé là, puisqu'en Hésiode, on considère comme le premier philosophe de notre monde occidental. Et puis, ça a commencé par une théologie, une théogonie. Il a fait les deux. Le travail, l'homme, et puis les dieux. C'est assez beau, tu vois, de voir ça. Mais après, la philosophie a laissé tomber le travail. Il a fallu Marx. Et lui, c'était très simple. Les philosophes, jusque-là, ont pensé sans changer l'humanité. Bien, nous changerons l'humanité par le travail, par la praxis. Donc c'est une volonté délibérée de changer l'homme et de faire que l'homme devienne la matière de la dialectique pour le transformer. Pas tellement, c'est ça qui importe, c'est de le manipuler. Alors on supprime la dignité de l'homme et le travail n'est plus la détente qui donne un sens premier de la fin. Quand je travaille, j'ai le sens de l'œuvre que je dois faire. Et le sens de l'œuvre que je fais, c'est la première expérience que j'ai de la finalité. Si je supprime cette première expérience de la finalité, je ne comprendrai plus ce qu'est la finalité. Et je ne verrai plus que la dialectique. Dans le monde d'aujourd'hui. Oui. Donc, il y a une nécessité. nécessaire aujourd'hui de reprendre une philosophie du travail par rapport à l'homme, comprendre que c'est la base de l'équilibre. Là, les psychologues ont tout à fait raison. Tant qu'un homme travaille, il y a espérance d'un équilibre. Le jour où il ne travaille plus, on ne sait plus comment le rattraper. Je dis travailler avec l'amour du travail. Et c'est toujours le signe d'un grand déséquilibre quand il n'y a plus l'amour du travail. Tant qu'il y a l'amour du travail, ça va. Or ça s'acquiert. Ça fait partie d'une éducation humaine, l'amour du travail. Alors la question qui se pose, quel est le lien entre la foi, l'espérance, la charité avec le travail ? Est-ce que la foi transforme le travail ? Comme la charité transforme l'amour d'amitié. Ça, c'est une question très importante, très délicate. Et c'était, je me souviens, c'était d'une des conférences que j'avais écoutées dans le temps, ça m'est resté. C'était un professeur de mathématiques polytechniques. Il est venu me donner une petite conférence au seul soir chez les Dominicains. Et là, il dit, depuis que je suis converti, je donne des mathématiques chrétiennes. Ça m'est resté, ça. Parce que j'ai cherché des mathématiques chrétiennes, puis je n'ai jamais trouvé. Mais ça pose un problème intéressant. Est-ce qu'il y a un travail chrétien ? Tiens. Où y a-t-il ? C'est l'homme qui est chrétien, qui travaille. Est-ce que le travail peut être baptisé ? Il faut beaucoup d'eau. Est-ce que le travail peut être baptisé ? Comme tel, non. Le travail a sa structure propre. Le travail intellectuel, le travail du menuisier. On disait un menuisier, s'il travaille chrétiennement, il dira, je suis chrétien, je travaille pour gagner ma vie, je travaille pour gagner pour ma famille, je travaille parce que j'aime ce travail, et ainsi de suite, ça dépendra. Mais c'est très important de voir que le travail, c'est la notion de l'œcuménisme fondamental de l'homme. Avec toute la gamme du travail. Parce que là, vous retrouvez l'homme qui demande de travailler. Et seul l'homme travaille. Les anges ne travaillent pas. Et Dieu non plus. Donc c'est le corps. C'est à cause du corps. Et ça intervient directement. C'est le corps. Alors si je déteste le travail, je détesterai mon corps. C'est curieux, ça. Et le manque d'amour du travail fait qu'on y a un manque d'amour du corps. Ça se tient. Et c'est ça qui fait qu'alors, il n'y a plus cette union du travail. Ça n'est plus un refuge. Et l'homme se déséquilibre. Il perd le sens réaliste du travail, des mœurs de travailleurs. C'est très important. Et personne n'est dispensé. Vous voyez, le pape, dans son encyclique sur le travail, c'est une encyclique, c'est pas une philosophie du travail. Hein. C'est pas une théologie non plus. C'est une encyclique, c'est un rappel. Le pape part de cette notion, tout simplement. C'est le précepte premier de Dieu, transformer l'univers. C'était avant le péché et c'est après le péché. Mais c'est bien l'œcuménisme. Et c'est vrai que c'est par le travail que, quand on peut travailler avec quelqu'un qui n'est pas du tout du même bord que nous au blanc les jeux. Si on travaille bien, il aura de l'admiration. Et puis si on lui fait comprendre que être chrétien nous permet d'avoir une force plus grande dans notre travail, curieux. C'est la grande apologétique. Celle-là est réelle. C'est montrer que la foi, l'espérance et la charité me rendent plus homme. Et que le travail, lui, touche l'homme. Je m'arrête parce que faut pas dépasser 4h30. Là, je vous remercie de la manière dont vous avez écouté. Parce que ça, c'est une coopération dans le travail. Moi, je considère que faire des cours, c'est un travail. Et quand on a une mauvaise matière, c'est beaucoup plus difficile quand il n'y a que des nœuds, vous comprenez ? Des nœuds. Alors, on casse souvent ses outils, ça va pas. Tandis qu'au contraire, quand il y a une coopération, c'est beaucoup mieux. Alors, on va continuer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles.